VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le prix Nobel de chimie a récompensé aujourd'hui le Suisse Jacques Dubochet, l'Américain Joachim Frank et le Britannique Richard Anderson pour avoir mis au point la cryomicroscopie électronique, une méthode révolutionnaire d'observation des molécules. Le prix de cette année récompense une méthode rafraîchissante d'imagerie des molécules de la vie, a annoncé Göran Hansson, le secrétaire général de l'Académie royale des sciences, qui décerne le prix. Grâce à cette méthode, les chercheurs peuvent désormais produire des structures tridimensionnelles de biomolécules à justifier le jury du Nobel. L'opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la dernière présidentielle, a été inculpée avec sa mère et sa sœur pour incitation à l'insurrection. Le point avec Solange Nyamulisa.
Les trois femmes ont été inculpées après avoir subi, selon les dires de Diane Rwigara, des interrogatoires au centre d'investigation de la police pendant les trois premières semaines de septembre, puis ont été placées en garde à vue. Faustin Kouzi, porte-parole du bureau du procureur, a déclaré que l'accusation a demandé la détention provisoire d'Adeline Rwigara, sa mère, Diane Rwigara et de sa sœur Anne Rwigara. Les trois femmes sont poursuivies pour incitation à l'insurrection. Diane Rwigara est par ailleurs poursuivie pour contrefaçon de documents dans le cadre de sa candidature à l'élection présidentielle du mois d'août. Dans une interview fin septembre, Madame Rwigara avait dénoncé le caractère politique de ses ennuis judiciaires. La police avait confisqué ses papiers d'identité, ordinateurs et téléphones. Le rejet de sa candidature par la commission électorale pour une question de procédure a été critiqué par des gouvernements occidentaux et des associations de défense des droits de l'homme.
Mobutu Sese Seko, l'ancien dirigeant de ce qui était à l'époque le Zaïre, est mort au Maroc il y a 20 ans. Aujourd'hui, rien à Kinshasa ne rappelle à première vue l'héritage de celui qui a régné d'une main de fer sur le pays pendant 37 ans. Et pourtant, il y a un groupe de mobutistes qui tentent de ressusciter son parti tout en réclamant sa réhabilitation. Reportage, Abdou Dramandia.
Aucune rue ne porte son nom et il n'y a aucune statue pour l'honorer. Mobutu Sese Seko, mort loin de chez lui, après avoir fui l'arrivée des troupes de Laurent Désiré Kabila, a encore des partisans à Kinshasa. Lando Katambongo est le cousin et ex-secrétaire privé de Mobutu.
Je crois après tout ce que le président a fait dans ce pays, ça mérite quand même une réhabilitation. Les gens, peut-être qu'ils ont l'esprit obtus pour ne pas se souvenir du président Mobutu. Si on ne reconnaît pas ce qu'il avait fait, mais il y a un pan quand même de la société congolaise maintenant, se reconnaissent en lui. C'est quand même le fils de ce pays, c'était pas un étranger. Il a lutté pour l'unité de ce pays. On doit quand même le lui reconnaître. L'écriture de l'histoire de ce pays doit rester intacte. Vous voyez à la télé par exemple, quand tu parles de l'histoire de ce pays, on mêle certaines photos, sauf la photo de Mobutu, comme si lui, ce monsieur-là, ne faisait pas l'histoire de ce pays.
Et parmi ceux qui parlent avec nostalgie de l'époque Mobutu, il y a son fils adoptif, Alain Dilongo Mobutu.
Je ne sais pas si lorsque moi aujourd'hui ou peut-être d'autres se présentent sur la nationalité congolaise, je ne sais pas si ça a la même connotation, si ça a encore la même valeur. Regardez, des pays où nous allions avec fierté aujourd'hui nous rejettent. Des pays que nous contrôlions, dont nous avions une grande ascendance aujourd'hui nous dominent. Je me pose la question.
Et pour lui, réclamer l'héritage de Mobutu passe d'abord par la relance du MPR, l'ancien parti unique.
Nous avons pris nos responsabilités pour réhabiliter ce parti-là et réanimer la flamme du MPR tel que notre papa, tel que le fondateur de ce parti l'avait animé pendant 32 ans.
Et la question du retour au pays de la dépouille de l'ancien chef d'État est aussi dans les esprits. Xavier Lukelo Longo était un de ses plus proches collaborateurs.
Les morts aujourd'hui, même si ton frère a un problème, on nous dit de pardonner. C'est le pardon d'abord. Quand il n'y a pas le pardon, on ne peut pas rien construire. Et les chefs, mon chef, mon papa, il était pour le pardon. Il a beaucoup aimé ce pays et il a fait beaucoup pour ce pays. Et il ne voyait pas mon Congo, mon Luba, mon Gala. D'ailleurs, je vous dis, même nous qui les servaient, il y avait des Katangais, il y avait des Kassaïens. 90% des travailleurs, c'était Bandundu, Bakongo.
Abdourahman Dia, de retour de Kinshasa pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a suscité les critiques jusque dans son propre camp mercredi après avoir déclaré que la Libye pourrait devenir attrayante pour les touristes et les investisseurs si toutefois elle parvenait à se débarrasser des cadavres. Mercredi matin, le vice-premier ministre britannique Damien Green a déploré ses propos, ses déclarations sur Sirte où le groupe djihadiste État islamique a été vaincu en décembre ont été auparavant vivement critiqué par Emily Thornberry, en charge des affaires étrangères dans l'opposition travailliste. Le premier ministre palestinien Rami Abdallah a réuni mardi son gouvernement dans la bande de Gaza. C'est un nouveau pas vers la réconciliation avec le Hamas et une première depuis 2014. Eki Abadou.
Le premier ministre palestinien réunit son cabinet à Gaza pour surmonter une décennie de déchirements. Nous voulons tourner la page de la division et restituer au projet national son cap qui est la création d'un État palestinien, a déclaré Rami Abdallah. En 2007, le Hamas avait évincé l'autorité palestinienne de Gaza au prix d'une quasi-guerre civile avec le Fatah. Un gouvernement de consensus national a siégé pour la dernière fois fin 2014, mais l'unité proclamée a fini par voler en éclats en 2015. La visite de M. Abdallah doit préparer le terrain à un transfert progressif de responsabilité du Hamas à l'autorité palestinienne. Le Hamas a cédé sous la pression du grand voisin égyptien et un sévère tour de vis de Mahmoud Abbas qui a refusé de payer l'électricité fournie par Israël à Gaza. Réagissant à ce rapprochement, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé au Hamas de reconnaître l'État d'Israël, de démanteler sa branche armée et rompre avec l'Iran. Le Hamas, qui dispose d'une force armée d'environ 25 000 hommes, a aussitôt rejeté ces conditions.
La justice espagnole a convoqué en vue de leur inculpation le chef de la police catalane et deux responsables d'associations indépendantistes dans le cadre d'une enquête pour sédition, a indiqué aujourd'hui à l'AFP un porte-parole de l'Audience nationale. L'enquête porte sur des faits survenus le 20 septembre lorsque l'arrestation de 14 hauts responsables de l'exécutif séparatiste catalan avait provoqué d'importantes manifestations contre la garde civile à Barcelone. L'annonce de ces convocations intervient au lendemain d'un discours du roi d'Espagne, lequel a assuré qu'il était de la responsabilité des pouvoirs légitimes de l'État espagnol d'assurer l'ordre constitutionnel. À Washington, il est 7h07.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La police fédérale américaine sur la piste des mobiles du tueur de Las Vegas, la petite amie de Stephen Paddock, de retour aujourd'hui aux États-Unis, était entendu par le FBI pour tenter donc d'éclaircir le mobile du carnage qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Les autorités philippines enquêtent sur un virement de 100 000 dollars qu'elle y aurait reçu de la part du tueur. Par ailleurs, le président Donald Trump est attendu aujourd'hui à Las Vegas pour y rencontrer des blessés ainsi que les forces de l'ordre. Il a qualifié le tueur de malade et de dément. Les forces gouvernementales irakiennes ont pénétré aujourd'hui dans la ville de Hawija, dernier bastion de l'organisation État islamique dans le nord de l'Irak, ont indiqué des sources militaires. L'opération pour bouter l'État islamique d'une des deux régions où ils sont encore présents en Irak a commencé il y a 13 jours, au cours desquels les forces gouvernementales se sont emparées de 4 villes et de dizaines de villages. La ville de Hawija, située à 230 km au nord-ouest de Bagdad, est l'une des dernières tenues par l'État islamique dans ce pays, les djihadistes ayant été chassés au cours des derniers mois de la plupart des territoires qu'ils avaient conquis en 2014. Et pour terminer ce journal, après une brève accalmie, les arrivées de réfugiés Rohingyas au Bangladesh continuaient mercredi, poussées selon des témoignages par de nouvelles opérations militaires en Birmanie. Ces nouvelles arrivées sont motivées, selon des récits de réfugiés, par de nouvelles manœuvres militaires dans l'État birman du Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie. Des opérations qui font douter de la concrétisation du retour de réfugiés en Birmanie, dont discutent Naypyidaw et Dhaka. Plus d'un demi-million de membres de cette minorité musulmane de l'ouest de la Birmanie ont déjà trouvé abri depuis fin août au Bangladesh voisin. Pour échapper à ce que l'ONU considère comme une épuration ethnique, à l'heure actuelle, estime les autorités, 4 000 à 5 000 Rohingyas franchissent quotidiennement la frontière.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.